venir avec moi au vernissage d'une nouvelle galerie.
Tu t'intéresses à l'art contemporain, c'est nouveau.
Regardez là-bas.
Yvon Chaligny, oui. Le critique d'art le plus en vue de Montpellier, je sais. C'est mon ex.
Alors ça, tout le monde connaît. Un si grand soleil, la série quotidienne de France Télévisions, entièrement tournée et maintenant montée, mixée dans les studios de Vendargues, et filmée aussi dans les villas, sur les plages, dans les montagnes autour de Montpellier. Lorsqu'on parle des ICC, les industries culturelles et créatives, cette nouvelle locomotive économique de l'agglomération, un si grand soleil est naturellement le premier nom qui vient à l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt la garrigue. Selon la dernière enquête portant sur l'année 2020, les ICC dans l'agglo représentaient déjà 750 entreprises, 2100 emplois et plus de 100 millions de chiffres d'affaires, notamment dans l'animation, l'audiovisuel, le cinéma, le jeu vidéo. Vincent Cavaroc est le directeur de la Halle Tropisme, à la fois salle de spectacle, espace de convivialité, incubateur de start-up, un des lieux phares des ICC dans l'agglomération.
Ça va être la soirée.
Je pense que pour plein de personnes à Montpellier, les ICC se résument à ceux qu'ils voient à la télé, et notamment ce feuilleton star qui a un si grand soleil. Mais c'est vrai que je dirais que c'est un peu l'arbre qui cache une forêt assez dense, parce que les ICC, c'est ça, mais je dirais que c'est bien plus. Alors, je ne remettrai pas en question le fait que grâce à cette série, aujourd'hui, il y a plein de professionnels qui travaillent, il y a un vrai dynamisme, il y a plein de Parisiens qui s'installent ici avec des super compétences, et ça fait monter le niveau globalement. Mais ce qui est génial, c'est que nous, grâce à ces locomotives-là, ben, on est tous entraînés dans une dynamique où effectivement le niveau monte, il y a du travail pour tout le monde, et nous, on peut ouvrir du coup plein de nouveaux secteurs. Parce que finalement, les cultures populaires d'aujourd'hui, c'est le jeu vidéo, c'est le cinéma d'animation, c'est le manga, c'est la BD. Et voilà, et nous on est au cœur de ça et on essaie d'ouvrir la boîte, regarder ce qu'il y a dedans et ouvrir ses entrailles des dessous de culture populaire.
Car les temps changent.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Montpellier-Saint-Roch. Prochaine arrêt.
Avant, on venait à Montpellier pour ça. Bien sûr, pour ça aussi. Mais maintenant, on y vient pour créer du son, de l'image, des contenus, des jeux. Et la première étape pour les jeunes qui débarquent, ou ceux qui se cherchent une vocation, ça peut être un rendez-vous avec Anne Duquerte, conseillère d'orientation.
Il y a en ce moment quelque chose qui est en train de se construire, qui s'appelle la Cité Créative. C'est un espace qui est vraiment dédié aux ICC. Qui va regrouper un campus de 4 écoles, 4 grandes écoles. Tout d'abord l'ESMA. L'ESMA, c'est l'école supérieure des métiers artistiques. Après, vous avez l'école d'art appliqué, l'IPESAA, voilà, qui travaille particulièrement sur le design et les illustrations de jeux vidéo. La troisième, c'est une antenne, donc de l'école photographie et game design. Et puis ensuite, il y aura une antenne de l'école du Ciné Creatis. Là, on est sur le domaine du cinéma et ça mène au métier de la réalisation, du montage, des assistants production. Alors on va aller, je pense, vers de plus en plus de jeunes d'autres villes qui viendront sur Montpellier pour ces raisons. Il y a également à l'Université Paul Valéry une licence d'art plastique, la licence cinéma et audiovisuel. Spécialisé celui-ci dans la scénographie culturelle événementielle. Agent Monet dans le domaine du numérique. Avec une...
Dans l'agglomération de Montpellier, rien que dans les secteurs du son, de l'image animée, du jeu vidéo et du cinéma, on compte déjà une quarantaine de formations. Mais ceux qui en parlent encore le mieux, ce sont les étudiants.
Bonjour, moi c'est Kimberley, j'ai 25 ans et je suis fan de musique et d'animation en général.
Bonjour, moi c'est Adrien, j'ai 22 ans, passionné de films d'animation et de cinéma.
Nous sommes à l'école supérieure des métiers artistiques de Montpellier, l'ESMA, avec deux jeunes qui finissent leur cursus animation 3D et effets spéciaux.
Là, c'est le hall central de l'école. Ça sert aussi pas mal de hall d'exposition. L'an dernier, on a eu Ubisoft qui a fait une exposition ici, notamment.
Il y a beaucoup de filières au sein de l'ESMA. Vous êtes dans laquelle ?
En 3D, animation et effets spéciaux. Là, en ce moment, en dernière année, justement, on crée des films de courts-métrages, d'animation. Du coup, on fait tout, que ce soit la modélisation en 3D jusqu'aux textures et lumières.
On est à la fois un peu scénariste... en même temps metteur en scène, parce que voilà, on est dans un groupe avec 6 ou 7 personnes et on crée notre film d'animation.
Vous êtes de Montpellier ou vous venez de plus loin ?
Non, je viens de région parisienne, moi.
Et moi, je viens de Nîmes, à côté. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Enfin, On a des camarades qui parlent anglais. Enfin,
vous pouvez montrer les endroits où vous travaillez ?
Oui, okay, bien sûr.
Donc en général, on a des classes plus classiques, mais en dernière année, c'est un peu plus particulier.
Voilà, effectivement, on rentre dans une grande salle avec des ordinateurs, voilà, des grands écrans. Donc c'est découpé, ouais, effectivement, en box, quoi.
Donc là, on peut voir par exemple India. Bonjour India. qui, du coup, sur son écran, on peut voir qu'elle est en train de faire des concepts et du chara-design, caractère design, choses comme ça. Et ça permet en fait de développer visuellement et graphiquement le style qu'on veut mettre en place dans le film.
On passe devant une vitrine, celle qui donne sur le patio. Il y a des trophées, c'est ça ?
Oui, des prix qu'a eu l'ESMA.
Chaque année, les quatrièmes années produisent des films d'animation qui sont montrés à un jury et qui sont également amenés à être montrés dans des concours à l'international, etc. On a des preuves que chaque année, les élèves qui sortent trouvent du travail, ont des bons postes dans des bons studios à l'étranger et en France aussi, parce qu'il y a aussi des très bons studios français.
Et ces perspectives de travail, ce n'est pas avec n'importe quel employeur. On trouve des anciens de l'ESMA à Disney, Pixar ou dans les meilleurs studios européens. L'ESMA, comme ArtFX, une autre école de l'agglomération, sont dans le top 10 des meilleures écoles du continent. Isabelle Tessèdre, la directrice pédagogique, tient à nous énumérer tous les métiers ou secteurs accessibles après ces formations.
Donc on va former tous les jeunes gens qui vont travailler dans le milieu de l'animation. Alors ça veut dire des modélisateurs, des rigueurs, des animateurs de personnages, des jeunes gens qui vont travailler sur l'éclairage, des scènes de FX ou d'animation. Donc ils vont travailler dans le milieu de l'animation, les longs métrages, les séries animées, puisque aujourd'hui on est sur une période plutôt fast, hein, avec effectivement en plus l'arrivée des plateformes depuis quelques années qui sont extrêmement gourmandes de produits, parce qu'ils sont très 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 recherchés. C'est des jeunes gens qui effectivement ont une compétence à la fois artistique et surtout technique, très très pointue, hein, ça relève de l'ingénierie informatique.
L'école est basée à Montpellier, le réseau aussi ESMA est basé à Montpellier. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être basé dans une ville du sud de la France ?
Alors, les avantages aujourd'hui et les inconvénients aujourd'hui ne sont pas les mêmes d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement, quand on a commencé, c'est vrai que c'était une école de province. Les gros studios étaient surtout existants sur Paris, voire l'étranger. Là, aujourd'hui, c'est vrai que dans ces métiers-là, en fait, on peut travailler même de chez soi, sur certains studios. Alors, surtout depuis le Covid, ça s'est un petit peu multiplié. On est un petit Los Angeles dans le sud de la France. Voilà, on a le climat qui va bien, l'ambiance. Et puis, cet écosystème qui est vraiment en train de se développer. Donc, c'est toujours pareil, plus vous aurez de studios, plus vous allez attirer les artistes. Donc en fait, c'est un cercle vertueux.
Sur cette cité créative en devenir qu'évoquait la conseillère d'orientation, on compte déjà 1000 étudiants qui s'initient au monde des ICC. Mais il y a aussi, juste à côté, un lieu où ces professionnels de la culture, de la création travaillent déjà, coopèrent, montent des projets. C'est la Halle Tropisme. Beaucoup d'habitants de l'agglomération connaissent déjà ces spectacles, ces marchés, ces conférences et les quelques 500 événements qui sont programmés chaque année dans ce nouveau lieu de convivialité. Mais beaucoup moins savent qu'à l'intérieur, 200 professionnels des ICC se sont installés. Une vraie fourmilière que nous fait visiter Marielle Rossignol, chargée de communication.
Ici, on est dans le village d'entrepreneurs de la Halle Tropisme. Donc on est dans le bâtiment principal, qui est l'ancienne halle mécanique de l'armée, qui fait 4000 m². La Halle Tropisme, c'est des professionnels des ICC qui louent des bureaux.
Juste pour décrire quand même les lieux, donc sous cette grande halle, il y a des sortes de petits chalets en bois. Chaque chalet, c'est une entreprise ou quelqu'un, ou ça peut être partagé entre plusieurs personnes ?
Alors ça dépend. Soit c'est du bureau privatif, soit c'est des bureaux partagés. On trouve une, deux, trois, quatre entreprises dans le même bureau. Ou alors l'open space. Donc l'open space, c'est une pièce avec 30 postes de travail qui est plutôt occupée par des indépendants. Au-delà de créer des bureaux, ce qui fait quand même un modèle économique pour le lieu, surtout ce qu'on a créé, c'est une communauté de professionnels qui ont vocation à mutualiser les métiers, les forces pour être plus forts ensemble en fait. Vraiment, on a un archi qui peut trouver au sein de cette communauté un développeur web, quelqu'un pour lui créer des typos, quelqu'un pour faire sa communication, quelqu'un pour organiser son événement, etc. etc. Pas du tout envie de se prêter au jeu. Il y a aussi un open space. Il y a 30 places à peu près, voilà, qui sont tous du monde des industries culturelles et créatives, Nous avons deux personnes qui sont dédiées à l'animation à plein temps de la communauté professionnelle et qui sont là pour les faire se rencontrer, travailler ensemble, répondre à des appels d'offres ensemble. Non, ne les mordez pas et ne les dérangez pas s'ils font la tête. Hein,
parce d'accord.
Que si vraiment ils font les gros yeux, ça veut dire qu'ils veulent peut-être déranger. Merci à
vous. Ok. Bonjour. Je ne vous dérange pas ?
Non.
Juste 5 minutes ? Ok.
Ouais.
Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Donc, je suis Mélusine Venn. Et donc, je suis graphiste et illustratrice. Enfin, je suis résidente à l'altropisme depuis l'ouverture, c'est-à-dire janvier 2019.
Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ce lieu dans lequel vous pouvez venir travailler ?
Professionnellement, on travaille tous ensemble, on s'entraide, il y a de la collaboration, des projets qui se montent. Et puis personnellement, tout simplement parce que ça permet de sortir de chez soi, pour nous qui sommes souvent indépendants.
Oui, parce que là, on voit, bon, y a des grandes tables, chacun est devant son ordinateur, on a l'impression que tout le monde est un petit peu dans sa bulle, mais en fait, non, il y a des échanges. Avec qui vous travaillez ici ?
Ah bah avec plein de gens, en fait. Maintenant, j'ai quand même une grosse partie de mes clients qui sont également des résidents de l'altropisme.
Voilà, je vais me rendre dans un autre secteur. Il y a du bureau au rez-de-chaussée, mais aussi à l'étage, sur une mezzanine. Et il suffit de lire l'identité des occupants, hein, c'est affiché sur chaque porte, pour voir vraiment toute la diversité du lieu. Voilà, là, dans un même bureau, on a une consultante sciences humaines et sociales, un développeur web, un graphiste indépendant. Voilà, à côté, un studio d'effets spéciaux, des architectes. Voilà, mais là, je vais voir la représentante d'un métier encore plus particulier. Bonjour. Vous êtes une des parlographes, c'est ça ?
Oui, il y a Berthaud, membre des parlographes. Parlographe, ça veut dire mettre en graphie ce que l'on dit. Ça veut dire mettre en dessin.
C'est-à-dire, vous avez inventé un nouveau métier ou ça existait déjà ? Parce que moi, parlographe, c'est la première fois que j'entends ce mot-là.
Ok, non, c'est un métier qui existe déjà bien depuis pas mal d'années. C'est du dessin pédagogique, c'est les petits dessins que vous voyez pour expliquer, par exemple, la finance en quelques secondes ou des sujets un peu compliqués. Ce sont ces petites vidéos que l'on voit un peu parfois, mélange du texte, du dessin.
Il y a quelque chose, un exemple concret que vous pourriez me montrer ?
Alors oui, par exemple, on sort là de l'exposition de la France Design Week et dans ce cadre-là, j'ai fait en fait une fresque qui va expliquer ce qu'est le design circulaire à l'aide donc de va dire un langage, un vocabulaire visuel qui va expliquer le plus simplement tout le parcours du design circulaire.
En quelques dessins, on voit le dessin d'une menuiserie, un personnage à sa table qui travaille. Effectivement, au centre, un cercle qui symbolise un peu cette économie circulaire avec les mots réemploi, réutilisation, recyclage. Donc c'est vraiment le mariage quoi, du texte et de l'image, mais en étant le plus concis possible.
C'est tout à fait ça. C'est essayer vraiment de parler très rapidement. Avec texte, image et ce qui est ce qu'on appelle les connecteurs, c'est-à-dire les flèches. Donc c'est vraiment un langage en fait.
Vous avez fait un diplôme de parlographe.
J'aurais adoré faire un diplôme de parlographe. J'ai fait les beaux-arts et après j'ai fait une fac de sociologie de la culture. Donc on est quand même toujours là-dedans.
Toujours dans la catégorie des métiers auxquels on ne pense pas, mais qui sont très importants dans l'aglo, il y a ceux qui sont liés au son.
Donc là, j'enchaîne deux sons de type différent. Je fais des fade-in, des fade-out entre les deux sons. Et j'écoute pour vérifier que ça se passe comme je l'avais prévu.
Pour faire une analogie avec l'image, c'est un peu comme des fondus enchaînés, c'est ça ?
C'est ça, exactement, ouais.
And in the morning, we'll light up the dawn with 1 minute silence. In our driveways, on our balconies, down at the front gate.
C'est un son exemple de promo de ABC, News en Australie, qui est un des clients.
For all the Anzac Day broadcast details, go to your local ABC radio.
Nous sommes toujours à la Altropisme, mais dans un bâtiment un peu à part. Une ancienne caserne qui abrite les locaux de Netia et son président fou d'audio, Bruno Tesnas du Montcel. Juste pour décrire un peu les lieux, c'est vraiment l'esprit start-up, enfin une start-up telle qu'on se l'imagine. Hein, quand on entre, il y a une salle à manger, des bureaux avec des grandes baies vitrées, des plantes vertes un peu partout. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Quel est votre cœur de métier ?
Nedia, ça fait 30 ans, ça a été créé il y a une trentaine d'années par deux ingénieurs des mines d'Alès qui ont, avec RFI d'ailleurs, trouvé une belle occasion d'aider la radio à se numériser. Et l'idée d'arrêter les bandes et de tout mettre sur fichier d'ordinateur, c'était quand même, à cette époque-là en tout cas, assez révolutionnaire. Du coup, Netia est devenu un des leaders des logiciels pour la radio. Les clients, à 80%, c'est des grandes radios nationales de service public. Radio France, France Télé, la RAI, Australian Broadcasting Corporation.
Pourquoi vous êtes basé à Montpellier ?
La première raison, c'est que les créateurs, eux, ils étaient de Claret. C'est juste un peu au nord de Montpellier. On a déplacé l'entreprise à Montpellier. On a été en discussion très vite avec des autorités municipales et régionales très favorables aux ICC. Et donc, on a aussi regardé Toulouse, on a aussi regardé Marseille et on a choisi de rester dans la région de Montpellier. Mais surtout, le fait de s'inscrire dans un écosystème ICC très vivace. On a parlé des jeux vidéo, de France TV Studio qui commençait. Il y avait déjà TF1 à 7 qui tournait un certain nombre de séries. On sentait bien qu'il y avait un vrai potentiel. Il y a des écoles informatiques sur des tas de sujets. Il y a à l'université des labos performants sur tout un tas de sujets d'avenir, comme Big Data ou autre chose. Dans le sillage de IBM ou Dell qui s'était installé ici à une certaine époque. Donc voilà, il y avait tout ça qui a fait que finalement, pour nous, c'était un endroit plutôt sympathique.
Vous, par exemple, dans votre entreprise, quels sont les profils que vous recherchez et que vous avez peut-être un peu du mal à recruter ici sur place ?
Alors, au niveau technique, on cherche en ce moment surtout des développeurs. C'est la denrée rare.
Et l'audio à Montpellier, ce n'est pas que Netia. L'entreprise a participé à la création d'un réseau international, Co-Audio, qui regroupe tous les professionnels du son. Là encore, l'objectif est de créer des synergies.
Ça faisait partie en fait de notre stratégie qui était à la fois d'ancrer Netia dans son écosystème montpelliérain et de faire en sorte que cet écosystème numérique montpelliérain, les industries culturelles, soit un terreau vivace. Et construire une place pour l'audio qui est plus importante. Parce qu'en réalité, on se rend compte que souvent dans les industries culturelles, vous demandez à n'importe qui, dans le jeu vidéo, le son, c'est le parent pauvre et il se bagarre pour avoir de la bande passante. Dans le cinéma, ça a toujours été compliqué. Dans la télé, c'est considéré comme un sous-produit. Je vous donne l'exemple, par exemple, de France TV Studio. Ça fait des séries télé. Mais ça fait aussi beaucoup de doublages pour des séries télé que France Télé achète à l'étranger. Du coup, ils ont développé toute une compétence autour de l'audio pour pouvoir faire du doublage. Et donc, ils font partie de Codio. Après, il y a des sociétés qu'on voit plus naturellement. France Bleu Héros, ils font partie de Codio. Des sociétés de production et de post-production audio fabriquaient des bandes-son pour des jeux, pour des films, pour des séries télé, comme Audio Workshop, qui est une petite société montpelliéraine. Il y a énormément de podcasteurs. On a Ubisoft, direction artistique son, qui fait partie de Codio.
La Halle Tropisme, comme les différentes écoles liées à l'ESMA, sont les premiers piliers de cette cité créative située à l'ouest de Montpellier. Mais le projet ne s'arrête pas là. On retrouve Vincent Cavaroc, le directeur artistique de la Halle Tropisme, en pleine soirée gitane.
Donc la cité créative, c'est un projet urbain d'un tout nouveau quartier qui d'ici 2030 sera quasiment terminé. Et il va y avoir toute une série de livraisons progressives de bâtiments. L'ancien cinéma militaire, qu'ils ont dû raser pour des questions de normes, mais qui va être reconstruit avec un auditorium cinéma dans lequel on pourrait aussi faire du spectacle vivant, des projections, un studio son, un bar en rooftop, une galerie en street art, deux plateaux de danse. La Next City en train de livrer deux lots avec notamment ce qu'ils appellent des sauts, c'est-à-dire des mix d'appartements et d'espaces de travail pour les créatifs. L'ancien musée de l'infanterie a été repris par la SERM et là ouvrira de façon intercalaire très très rapidement avec quatre grands plateaux pour les ICC, complémentaires des nôtres. En fait, c'est ça le but de la cité créative. Tu sors de l'ESMA ou d'Artefix, plutôt que de partir demain au Canada ou à Paris. Tu restes ici, tu montes ta structure à 2-3 personnes, tu viens à la Halle Tropisme avec un premier bureau, demain tu as un contrat avec Netflix, tu staffes à 15 ou 20 personnes, tu vas basculer dans un autre bâtiment de la cité créative, en plus tu auras accès au grand fond vert et au studio de tournage de l'ESMA, tu pourras faire ta projection et ton calibrage son au Codio quand ils auront leur lieu, on aura tous les outils pour pouvoir accompagner les filières que j'ai nommées, à savoir la filière sonore, images animées, animation, jeux vidéo.
La liste de nos métiers et entreprises liées aux ICC s'allonge, mais elle n'est pas terminée. il ne faut pas oublier cette success story du jeu vidéo qui a fait naître la légende de Montpellier. Et dans ce quartier du millénaire, même si on n'est pas un spécialiste, tout le monde connaît cette entreprise logée dans un cube noir, futuriste et mystérieux.
Quand on joue, c'est un nom qui est connu. Franchement, Ubisoft, c'est la base, quoi. Ouais.
Okay. Les lapins crétins, évidemment. J'y jouais quand j'étais jeune, c'est mon jeu préféré en plus.
Le studio d'Ubisoft, implanté par le Montpelliérain Michel Ancel lorsqu'il est revenu dans sa ville en 1992, a donné naissance à des blockbusters mondiaux, comme les Lapins Crétins. Ou le jeu Rayman.
Hi folks, let me tell you the story of Rayman.
C'est aussi le plus grand studio de cinématique d'Ubisoft dans le monde, où l'on retrouve des concept artistes, des programmeurs, des animateurs, des designers de son, des producteurs. Autre secteur qui a connu un succès fulgurant dans l'agglomération, c'est l'animation. Vous connaissez l'American Dream, mais avez-vous entendu parler du rêve montpelliérain ? Ces entrepreneurs qui viennent s'installer en Méditerranée et qui sont courtisés par les plus gros studios californiens. C'est l'histoire d'Olivier Pinol, le PDG de Dwarf Animation. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Pinol ?
C'est moi.
Okay. Vous m'avez dit que vous étiez très occupé en ce moment ?
Oui, tout à fait. C'est un peu le feu là. On est en livraison d'une une saison pour Netflix. Donc là, ils sont là. On est en train de valider le planning, les budgets, tout ça pour la dernière ligne droite. Donc on est un peu à fond tous là.
Comment ça se passe quand on a rendez-vous avec des représentants de plateformes comme ça ? C'est des gens qui viennent donc directement des États-Unis, du siège Netflix, qui viennent ici ?
La chance qu'on a, c'est qu'on est en direct avec les équipes créatives, production, management de Netflix aux États-Unis, donc du siège. Et il y a eu plusieurs étapes. Là, on était vraiment sur un aspect vraiment production, finance, donc petite équipe, 2-3 personnes. Mais il y a quelques mois, il y avait les réals, la direction créative. Donc là, c'était plutôt une dizaine de personnes. Une délégation complète qui est venue, donc avec toute l'organisation qui va avec, sur une production comme DAD, donc c'est la production en cours pour Netflix. C'est une série premium family où on doit faire 440 minutes de contenu, donc ça représente à peu près au pic 170 personnes qui travaillent sur le projet.
I'm Everett Downing, co-creator of the upcoming Netflix animated series My Dad the Bounty Hunter.
Dans le monde des ICC, c'est ce qu'on peut appeler un très gros coup. Ce sont ces studios d'animation Dwarf à Pérol qui vont réaliser la nouvelle série animée premium de Netflix, baptisée DAD, et qui raconte les aventures d'un chasseur de primes intergalactique. Pour Olivier Pinol, c'est l'aboutissement d'un long parcours qui a commencé à Montpellier.
Et c'est ce travail-là qui m'a permis de vivre à San Francisco, où j'ai pu travailler sur des productions comme Shrek, Madagascar. Et après, je suis voyagé encore une fois donc, en Nouvelle-Zélande, passé quelques années là-bas, et de travailler dans le studio de Peter Jackson, donc Weta Digital, et travailler sur le projet Avatar.
Quand on travaille sur des productions telles que celle-ci, avec des blockbusters comme cela, et qu'on est maintenant à Montpellier, en fait, on peut maintenant faire ce métier au plus haut niveau partout ?
Tout à fait. Mon rêve de l'époque, il y a 12 ans, c'était voilà, je crée le studio ici, mais par contre, je veux garder cette culture internationale. On a travaillé pour Disney+, là on travaille pour Netflix. Je voyage 2 fois par an aux États-Unis pour garder les liens, développer des contacts. Après, Montpellier, c'est aussi une force, c'est que c'est la petite Californie. Vraiment, on a un écosystème. Nous, on a été en 2010, je crois qu'on était le premier studio d'animation à créer. Depuis, il y a pas mal de gens qui sont installés, comme Fortiche, ceux qui ont produit la série Arcane sur Netflix aussi. Il y a des gens comme Mathématiques, ils ont ouvert une antenne à Montpellier. Donc ça permet aussi de proposer du travail aux jeunes pour éviter qu'ils partent à l'étranger aussi, mais qu'ils restent. Donc retenir les talents, leur proposer des beaux projets et encore une fois, un écosystème viable et long terme.
La liste est-elle terminée ? Pas tout à fait. On va finir par là où nous avions commencé. Les tournages d'un si grand soleil à Montpellier depuis 2018 sont devenus quelque chose de banal, une habitude. Pourtant, ce qui se passe dans les studios de Vandargues est plutôt exceptionnel, et même parfois unique en France. Car depuis cet été, ce ne sont plus seulement les tournages qui se font ici, mais aussi toute la post-production et bien d'autres choses aussi. Olivier Rollins, producteur exécutif de la série pour France Télévisions, nous fait le tour du propriétaire. 16 000 mètres carrés quand même.
Alors la post-production, c'est tout ce qui se passe après le tournage. C'est le montage, mixage, étalonnage, trucage, effets spéciaux. Ça, c'était localisé sur Paris. Et depuis cet été, été 2022, nos collègues de la post-production sont avec nous à Vendargues. Donc ce sont des emplois supplémentaires. C'est une équipe de 25 personnes à peu près. Alors ce qui permet une meilleure synergie, en fait. Ça permet des échanges et d'être plus efficaces tous ensemble. Il faut être 25 par jour. Il faut au moins une équipe 3 à 4 fois plus nombreuse que ça. Et l'ambition pour nous, en tout cas, c'est de monter en puissance sur l'emploi local en travaillant au plus près avec les organismes de formation. Alors si on prend les chiffres un peu macro, un Si Grand Soleil, c'est chaque jour 250 personnes qui travaillent. Quatre équipes de tournage sont soit en studio, soit en décor naturel. On retrouve tous les métiers de la post-production de fiction, en partant de l'assistant monteur, le chef monteur, le monteur son, le mixeur, l'étalonneur, les truqueurs, graphistes, effets spéciaux, et les techniciens vidéo et l'équipe d'encadrement qui permet que chaque jour, on puisse fabriquer l'équivalent d'un épisode de 22 minutes. L'ambition pour France Télévisions, c'était d'ouvrir un site de production pérenne pour le feuilleton Un Si Grand Soleil, mais aussi d'autres séries comme Les Pénacs, qui est une série de 6 fois 52 minutes dont on va commencer le tournage avant la fin de l'année. En fait, la seule chose que nous n'avons pas aujourd'hui à Montpellier, c'est la partie écriture.
Ok, je vous suis.
Ok, donc nous allons nous diriger vers l'atelier de fabrication de décors. Cet atelier de fabrication de décors est l'atelier du groupe France Télévisions. Donc on y fabrique aussi bien des décors pour Un Si Grand Soleil que pour les autres fictions du groupe, que des plateaux d'émissions et de journaux télévisés pour la métropole et l'outre-mer.
Alors là, on arrive dans un espace, un énorme espace de stockage qui va sembler familier aux gens qui fréquentent une grande chaîne de magasins d'ameublement suédois, hein, parce que ça ressemble vraiment à ça, des meubles et des accessoires qui sont rangés jusqu'au plafond, qui doit être à une quinzaine de mètres un peu plus haut.
C'est le stock pour France Télévisions, accessoires, mobilier, décors. Donc c'est des milliers d'accessoires différents, des milliers d'éléments de mobilier.
Donc là, on approche un petit peu du cœur du réacteur, on peut dire.
On s'approche du Studio D. Donc 2022, pour nous, c'est le développement de nouveaux outils de production, dont deux plateaux complémentaires. Alors un plateau de 1100 m² et un plateau de 600 m². Alors ce qui nous permet de démultiplier nos capacités de production. Et dès l'année prochaine, sur un grand mur LED. Ces murs LED, ce sont des grandes surfaces d'écran dans lesquelles on affiche soit une image 2D, soit un environnement 3D qui est cohérent en fait par rapport au mouvement des comédiens qui sont en avant-plan. Et ça permet effectivement d'être aussi bien à la plage ou dans une paillote et d'afficher l'environnement bord de mer derrière que d'être dans une rue de Montpellier. Ça sera encore plus réaliste, c'est-à-dire qu'on ne verra pas la différence avec un tournage en conditions réelles.
Voilà, donc là, on est dans l'entrée d'un hôpital qui a été reconstitué. Radiologie, consultation, médecine interne, le comptoir de l'infirmière d'accueil, on y est. Hein.
C'est assez réaliste, effectivement. L'hôpital de Montpellier, pour nous, est dans un studio. C'est un décor qui fait à peu près 250 m² et l'utilisation des fonds verts nous permet de donner l'impression que cet espace est beaucoup, beaucoup plus grand, avec la vue sur le grand hall de l'hôpital, sur la ville de Montpellier, qui dans la réalité n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes en tournage dans le Studio B. L'équipe de tournage, il passe la journée complète.
Allez. On va démarrer la répétition.
Bien.
Bonjour, je suis Emmanuel Kaki. Je réalise une séquence d'Un Si Grand Soleil dans le cabinet LG. Donc c'est une séquence en fait entre Johanna et Florent, qui sont tous les deux avocats au cabinet. Et donc c'est une petite discussion entre Florent et Johanna.
Allez, on va pouvoir regarder une répétition, s'il vous plaît.
Alors que ce soit pour un tournage, un jeu vidéo, une animation, des manipulations d'images ou du son, ou toute autre activité liée aux ICC, vous savez maintenant où ça se passe.
Allez, faut y aller.
Ah, bah,
on
se
met en place, s'il vous plaît, merci.
Guillaume, oui.
T'es une vraie sur le plateau.